Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, c'est Patchwork. Patchwork, c'est une série de chroniques sur des sujets divers et variés, animés par des animateurs qui le sont tout autant. Au gré des émissions et du temps, ils vous parleront de droit, de finances, de vin, de cinéma, de bien-être au travail et de bien d'autres choses encore. On les écoute. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice?
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ces nouvelles chroniques de Maître Marie. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre de mes domaines de compétences, après le droit du travail la semaine dernière, et ce sera le droit de la famille. Et plus spécialement, les séparations et les pensions alimentaires pour les enfants, aujourd'hui appelées contributions aux charges d'entretien et d'éducation des enfants. Cette contribution peut être décidée amiablement par les parents dans une convention parentale ou une convention de divorce par consentement mutuel par acte d'avocat, mais aussi par décision du juge aux affaires familiales hors divorce ou dans un jugement de divorce. Elle est en principe payée entre le 1er et le 5 de chaque mois et est indexée une fois par an selon l'indice INSEE correspondant. Mais il arrive aussi, parfois, qu'elle ne le soit pas payée. Et dans ce cas, c'est plus délicat. On pouvait recourir jusque-là à l'huissier de justice avec une saisie sur rémunération et un paiement direct, et on peut aussi, selon ses ressources, se tourner vers la CAF pour obtenir l'allocation de soutien familial. Cette allocation existe depuis 1984 et elle permet un système d'avance lorsque l'on a la charge d'un enfant sans aide de l'autre parent et en cas d'impayé. Mais c'est parfois insuffisant, notamment lorsque le montant de la contribution pour les enfants est supérieur aux 115 euros de l'allocation. Alors en 2017, la loi a créé l'ARIPA, et c'est d'elle dont nous allons parler aujourd'hui. Sujet sur lequel j'ai eu la chance d'assister cette semaine à une très intéressante formation de Maître Offrière, avocat honoraire au barreau de Toulouse, et Maître Isabelle Fèvre, spécialiste des voies d'exécution, avec également la participation de représentants de la CAF. Alors l'ARIPA, qu'est-ce que c'est? C'est l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires. Comme son nom l'indique, elle a une double casquette, recouvrement et intermédiaire. Concernant les textes qui régissent et organisent cette agence, on a deux décrets très détaillés du 30 septembre 2020 et une circulaire également très détaillée. Ces éléments viennent modifier notamment les articles 373-2-2 et suivants du Code civil et les articles 582-1-7 du Code de la Sécurité sociale et puis aussi un peu notre Code de procédure civile. Alors la volonté annoncée derrière ce nouveau système, c'est d'aider les parents en difficulté en raison du non-paiement de pension, d'éviter les tensions entre les parents sur les problèmes de paiement qui pourraient jaillir sur les enfants, de protéger des impayés, de rétablir des droits, sécuriser et prévenir et apaiser les tensions. Rien que ça. L'ARIPA est rattachée à la CAF et à la MSA. Et ces caisses vont donc pouvoir délivrer, notamment en termes de recouvrement, des titres exécutoires dont la force sera équivalente à une décision de justice, mais uniquement sur la question financière. Alors, comment fait-on pour recourir à l'ARIPA? Eh bien, tout d'abord, on devra obligatoirement y recourir dans les dossiers lorsqu'il y a eu une condamnation de l'autre parent ou une plainte à son encontre pour menace ou violence. On retrouve ici le souhait d'être intermédiaire pour éviter et apaiser les tensions et protéger. Et puis ensuite, le recours à l'ARIPA pourra être demandé par les parents, soit par les parents eux-mêmes lorsqu'ils demandent l'homologation d'une convention parentale, soit par celui qui saisit le juge dans son article introductif d'instance. Dans son acte, pardon, pas son article introductif d'instance. Le juge a le choix, pour l'instant, d'accéder à la demande ou non. Et on va voir dans les mois qui viennent si les juges se saisissent du dispositif et y ont recours, ou si au contraire, ils continuent à rendre des décisions semblables à celles qu'ils rendent pour le moment. Et les parties peuvent aussi le prévoir dans leur convention de divorce par consentement mutuel. Alors comment ça marche tout ça finalement? Eh bien une fois que le recours à l'ARIPA est ordonné, de deux choses l'une. Soit il n'y a pas d'impayé, et en fait l'argent ne fait que transiter par la CAF qui prélève sur le compte du débiteur et qui reverse aux parents créanciers. Soit il y a un impayé, et dans ce cas il y a un système d'avance qui se met en place, mais également des diligences de la caisse pour relancer le débiteur et le remettre en mouvement sur ses paiements. Et la RIPA peut également faire du recouvrement pur avec un rappel sur les 2 années passées. Alors, comment cette RIPA est-elle informée de ce qu'elle doit intervenir? Eh bien, si le juge l'ordonne dans sa décision, le greffe du tribunal doit lui notifier la décision et si nous sommes dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel enregistré chez le notaire, eh bien on doit prévoir un exemplaire de plus pour la convention. Alors, premier écueil, décision ou convention qui ne concernera pas que la pension. Donc on peut avoir un problème de confidentialité et les textes ne parlent eux que d'extrait de décision. Mais un extrait, qu'est-ce que ça vaut ? Aujourd'hui, quand on exécute sur un titre, sur un jugement dans son intégralité avec des conditions de validité, notamment formelles. Là, vous êtes sur un extrait, mais on aura un titre exécutoire quand même. On est déjà un peu bancal. Les banques également auront aussi des informations à transmettre, notamment en cas de clôture de compte ou d'insuffisance de provision. Et les informations sont transmises à la caisse par l'intermédiaire d'un site et d'un portail dédié. Vous le savez, dématérialiser, c'est tendance. Alors on nous dit que ça va faciliter les choses pour le parent créancier parce que ce sont les greffes ou l'avocat qui vont transmettre les éléments et informations. Et puis après, les frais de gestion et recouvrement, s'il y en a en cas d'impayé, eh bien ils seront automatiquement imputés au débiteur. On est sur une marge entre 7,5% et 10%. Alors, tout ça, ça part d'une très bonne intention, on l'a bien compris. Aider, éviter les tensions, modernité, gratuité, rapidité apparente, simplicité apparente, comme l'a très justement soulevé Maître Fèvre lors de cette formation, et ça pose quand même beaucoup de questions. D'abord parce que ça nous oblige à recueillir des données, notamment bancaires de nos clients, et ça c'est pas très RGPD friendly, et vous savez qu'en ce moment c'est très important d'être RGPD friendly. On devient collecteur, transmetteur, et ça c'est pas notre fonction initiale. La CNIL elle-même a pointé du doigt tout ce recueil d'informations, mais également la sécurité du site dédié dans lequel elle a décelé des failles. Ensuite, prévoir une notification à la caisse par les greffes, c'est bien, mais on n'a pas prévu de greffière en plus, comme d'habitude, et ça, c'est encore leur ajouter une charge de travail alors qu'elle croule déjà sous la masse. Et au passage, on n'a pas prévu non plus de tarification pour nous, notamment dans les dossiers dans lesquels on intervient à l'aide juridictionnelle, et je ne crois pas qu'on ait prévu de nous donner quelques UV cacahuètes supplémentaires, parce qu'on va faire de la saisie. Alors, les textes prévoient des délais précis de communication, mais pas de sanctions en cas de non-respect de ces délais, mais ça c'est presque un classique de la législation française. Et puis, il y a un système de barème CAF aussi pour la mise en place amiable de ces pensions, mais barème qui n'est pas le même que celui pris actuellement en compte à titre indicatif devant les tribunaux. Donc du coup, si on veut être hors barème, et notamment hors barème CAF, est-ce que c'est pas finalement pousser les parties vers ces instances qu'on a l'air de vouloir tant éviter? Ce serait un peu l'effet pervers du système. Et puis aussi, la RIPA ne peut intervenir que sur le volet purement numéraire de la pension. Or, on le sait bien, souvent la contribution et tout ce qui entoure la question de la contribution financière, elle ne se limite pas à une somme à verser. Il y a les partages de trajets, de cantines, de frais de scolarité, de loisirs, de mutuelles. Ça, c'est du vrai faux numéraire, parce que bien évidemment, ça va être une charge supplémentaire, une charge matérielle à la charge du parent débiteur. Mais c'est pas simplement une somme prélevée. Donc finalement, on peut se demander si on n'est pas un peu comme chez Shakespeare, avec beaucoup de bruit pour rien. Excellente pièce que je vous recommande d'ailleurs. Un système annoncé à grand bruit par l'État et le gouvernement censé révolutionner le monde du paiement de la pension alimentaire. Mais finalement, comme très souvent, un contexte bien plus subtil dans lequel, pas de bol, on va une nouvelle fois pas pouvoir se passer des avocats, des magistrats et des tribunaux. Et c'est heureux, parce que si parfois, je vous l'accorde, il y a des situations où les choses sont simples et peuvent être réglées par le biais de conventions toutes faites, de cases à remplir avec un gentil état un peu policier qui veut surveiller s'il a droit ou pas encore de botter les fesses du débiteur avec des documents déjà tout prêts, eh bien il est aussi bien des fois où le dossier et la situation des parties est plus subtile, avec des adaptations particulières qui ne rentreront jamais dans des cases. Donc, je pense pas que ce nouveau système détrône l'existant. Ça va créer une nouvelle superposition un petit peu complexe pour tout le monde, mais ça sera sans doute pas la révolution et la solution annoncée. Alors, attendons maintenant l'évolution de la jurisprudence, son recours fréquent ou non au système de la RIPA, et puis la pratique et l'évolution du contentieux à ce sujet. Bref, là encore, du nouveau à venir. Voilà, chers auditeurs, j'espère que cette chronique vous aura intéressé, interrogé peut-être, et ça c'est encore mieux parce que s'interroger c'est très important, surtout en ce moment. Dites-le moi, dites-le nous sur la page Facebook d'Esprit Occitanie, n'hésitez pas à interagir, j'aurai grand plaisir à vous lire, à vous répondre. Et si vous souhaitez nous réécouter, eh bien vous pouvez retrouver cette chronique dans le Patchwork ce soir à 23h, et puis aussi mercredi matin à 10h, et bien sûr à la demande, dans la merveilleuse bibliothèque de podcast sur www.espritoccitanie.fr. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. J'aurai grand plaisir à vous retrouver. Nobody but you and me. We got it together, baby.
Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans la Casa de Ebel. Pour cette première chronique de l'année 2021, j'ai décidé de modifier la thématique principale de cette dernière. Bien évidemment, vous retrouverez votre quiz hebdomadaire sans oublier les anecdotes qui font la spécificité de cette chronique. Néanmoins, au cours d'un échange avec mon épouse, nous dissertions sur la période actuelle, quelque peu morose, voire même anxiogène pour certains, quand elle me proposa l'idée géniale de réaliser une chronique positive. Et c'est ainsi que fut portée sur les fonds baptismaux la nouvelle Casa de Ebel, la Casa des Bonnes Nouvelles. Quelle en sera la philosophie? Eh bien, dès que l'actualité me le permettra, je vous proposerai une bonne nouvelle. Mais voici le menu de cette nouvelle chronique de l'an 2 de la Casa de Ebel. En entrée, je vous proposerai la réponse au dernier quiz. Le plat principal ensoleillera votre journée avec une bonne nouvelle sportive. Enfin, pour le dessert, et comme le veut la tradition, je soumettrai à votre sagacité un nouveau quiz, astronomique pour la première fois. C'est parti pour une nouvelle pause dans la Casa de Ebel, avec la réponse au dernier quiz que je vous avais posé. Vous avez été nombreux, voire même très nombreux, à nous contacter pour nous fournir la bonne réponse. Replaçons-nous quelques semaines plus tôt. La précédente chronique fut diffusée 6 jours après la célébration de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Pour rendre hommage à toutes les femmes, je consacrai ce quiz à l'une d'entre elles, dont la vie fut juste incroyable. Rendez-vous compte qu'elle fut la première femme nommée chef du département d'astronomie de l'université de Harvard en 1956. À 25 ans seulement, elle osa même remettre en cause le consensus scientifique en envisageant que les étoiles soient composées d'hydrogène. Connaissez-vous son nom? Eh bien, il s'agit de Cecilia Payne Gaposchkin. Comme je vous l'indiquais en début d'émission, voici la première bonne nouvelle de cette chronique New Look. Et un cocorico pour commencer. Connaissez-vous Tiffany Huot-Marchand, Aurélie Monvoisin, Aurélie Lévesque, Gwendoline Daudet et Chloé Olivier? Peut-être pas. Sachez que ces 5 sportives de très haut niveau viennent de réaliser un authentique exploit. Partons pour la perle de la Baltique. C'est à Gdansk que se déroulait le week-end dernier le championnat d'Europe de short track. Le short track, que nos cousins canadiens nomment élégamment le patinage de vitesse courte piste, est un sport qui naît au début du XXe siècle. Ce sport se pratique dans une patinoire. Cette discipline est devenue olympique lors de l'Olympiade d'Albertville en 1992. Les principales distances pour les courses individuelles sont de 500 mètres, 1000 mètres et 1500 mètres. Quant aux épreuves de relais, elles se déroulent sur 3000 mètres pour les femmes et sur 5000 mètres pour les hommes. Le short track fait partie depuis 2018 des sports ayant institué la mixité grâce au relais mixte qui se déroule sur 2000 mètres. Les courses se disputent à 4 ou 5 patineurs pour les courtes distances et à 8 patineurs pour les longues distances. Il n'y a pas de couloir, chacune et chacun sur la même piste. Imaginez que cette règle permet de voir des courses très très disputées. Mais attention, pas question de faire n'importe quoi. Il est interdit par exemple de pousser son adversaire ou de tenter de lui faire une queue de poisson. Les règlements sont très stricts là-dessus. Chaque faute est sanctionnée par une pénalité. Et pour finir la présentation de cette discipline qui mérite d'être médiatisée, imaginez que les short-trackeuses et les short-trackers peuvent atteindre une vitesse proche de 50 km/h sur une patinoire. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de chausser des patins, notamment dans une patinoire, je vous laisse imaginer la puissance à développer pour l'accélération et également l'équilibre nécessaire pour ne pas tomber et tenir sur pied lors des virages. Cette discipline est dominée au niveau mondial par la Corée du Sud, la Chine, le Canada et les États-Unis. Quant au niveau européen, elle est dominée chez les hommes par les Russes, les Hongrois, les Hollandais, ainsi que les Italiens, et chez les femmes par les Hollandaises, les Allemandes et les Italiennes. C'est dans cet environnement où les Françaises et les Français sont peu représentés dans les palmarès que nos cinq héroïnes entrent par la très grande porte au panthéon du sport européen. Tiffany Huot-Marchand, Aurélie Monvoisin, Aurélie Lévesque, Gwendoline Daudet et Chloé Olivier, retenez bien ces noms, ont simplement remporté la médaille d'or du relais féminin lors des derniers championnats d'Europe qui viennent de se dérouler à Gdansk. Félicitations à vous cinq. Grâce à vous, votre sport sortira de l'ombre. En route pour Pékin. Et pour finir cette parenthèse inattendue, que diriez-vous d'un quiz astronomique? Je vous propose de chercher le nom d'un phénomène lumineux et naturel qui se produit autour des pôles magnétiques. Il apparaît lorsqu'en provenance du Soleil, des nuages de matière chargée en énergie rencontrent l'atmosphère terrestre après avoir été repoussés par le champ magnétique qui protège notre belle planète bleue. L'intensité de ce phénomène lumineux varie en fonction de l'activité solaire. Quel est le nom de ce phénomène? À la semaine prochaine pour connaître la réponse. C'était la Casa de Ebel. Je vous remercie pour votre écoute et attends vos réponses au quiz de la semaine. À la réalisation, Yanis.
Bonjour chers auditeurs, Monique Marc pour la rubrique La lectrice d'Occitanie. Je vais aujourd'hui vous faire découvrir le chapitre 8 du roman La suerte de matar de Frédéric Coudron au Diable Vauvert. Juin 2018, Séville. Après l'atterrissage, nous rejoignîmes l'Alfonso XIII, un palace de Séville où Ortega avait réservé 3 suites. Nous nous installâmes dans l'une d'elles avec Paco. Il était 7h du matin. Posant juste nos valises sans les ouvrir, sans même nous déshabiller, nous nous laissâmes tomber sur nos lits respectifs, épuisés par le vol et le manque de sommeil. Je voulais m'endormir, mais j'avais le cerveau beaucoup trop occupé. Je pensais à la manière dont j'allais enquêter sur le meurtre du ganadero, éprouver, je l'espérais sans trop y croire, la culpabilité du matador. Je considérais cela comme un jeu et j'adorais jouer. Pour autant, je ne savais pas par où commencer. J'ignorais tout de cette affaire. À l'évidence, je devais contacter la police locale et plus particulièrement l'enquêteur qui avait suivi le dossier, tout en menant de front les interviews du torero. Je tournais dans tous les sens sur mon matelas king size. Impossible de fermer l'œil. Paco, lui, avait sombré depuis longtemps. Je décidai de descendre prendre un verre au bar ouvert 24 heures sur 24. Au passage, je me passais un peu d'eau sur le visage dans la salle de bain. J'avais une sale mine, le teint blême, de larges cernes sous les yeux. J'étais épuisée. L'ascenseur me déposa dans le vaste hall au fond duquel se dessinait le bar de l'hôtel. Le barman me salua à mon arrivée. Je m'installai sur un tabouret haut et balayai la pièce du regard. J'étais la seule cliente. À l'extérieur, par contre, je vis José Ramón Olano, l'apoderado, qui prenait le frais sur un fauteuil en osier. Je commandai une tequila et décidai de le rejoindre. « Je peux m'installer avec vous pour fumer une cigarette ?»« Bien sûr, allez-y. » D'ordinaire, surexcité, l'apoderado semblait à moitié endormi. Il n'était pas accroché à son téléphone compte tenu de l'heure très matinale. J'allumai une Vogue sans dire un mot. Il rompit le silence. « Vous n'arrivez pas à dormir non plus ?»« Non. Après des émotions comme à Mexico, je n'arrive jamais à trouver le sommeil. » Je tirai une latte sur ma cigarette, puis je pris la parole, bien décidée à en savoir plus sur Ortega. « La fille dans le jet, c'est la femme de votre patron ?» Il se mit à rire. « Sa femme ? Ah non, ça, c'est Carmen, une aficionada de la première heure. Elle est folle amoureuse de lui, mais lui... » Lui quoi? C'est un séducteur, il n'a jamais été amoureux. Disons qu'elle lui apporte ce dont il a besoin, du sexe. Mais il y en a tellement de Carmen. Il a une fille dans chaque port? Il rit de nouveau. Dans chaque arène, plutôt. Je le connais depuis longtemps, ce n'est pas un grand sentimental, c'est un passionné. En amour, il est comme dans le ruedo. Il a besoin d'adrénaline et de jouer avec le feu. Il n'a jamais eu de relation stable? Une fois, oui. Il a même eu un enfant, mais ça n'a pas duré. Un an, tout au plus. Il a un enfant ? Oui, un fils, Diego. Il a 15 ans, son portrait craché. Il est en passe de devenir novilliero. Torero comme papa. Décidément, ils ont une dent contre les taureaux dans cette famille. Vous n'aimez pas la corrida, je me trompe ? On ne peut rien vous cacher, je déteste ça. Je ne comprends pas comment on peut faire souffrir un animal. Je peux comprendre. Mais ce n'est pas dans votre culture. Mais vous savez, Ortega aime aussi les taureaux, il les vénère même. En les tuant ? Non, en essayant de les sauver. Vous savez, la corrida, c'est comme une danse. Ortega considère qu'il est de son devoir de magnifier la bête. Il est déjà parvenu à gracier des taureaux très médiocres. C'est là son unique but. Il n'est pas comme El Carillo, par exemple. Je ne vois pas vraiment la différence. El Carillo considère la corrida comme un combat de gladiateurs. Il se fout du taureau. Ce qui l'intéresse, c'est l'épreuve de force, le spectacle. El Carillo se bat contre le taureau. Il fait souvent preuve de cruauté lorsque la bête n'est pas à la hauteur. Ortega, lui, danse avec l'animal. Il est en communion avec lui. Cela n'a rien à voir. Ce n'est pas un hasard s'il a gracié 24 taureaux. Vous avez probablement raison. Je suis béotienne, il faut m'excuser. « Ne vous excusez pas, la corrida, on aime ou on n'aime pas, et on peut apprendre à l'aimer. J'espère que votre reportage vous permettra de comprendre un peu mieux. La corrida, c'est la vie et la mort. L'amour aussi, la passion, tout y est symbolique, tout y est fragilité et force. Vous êtes intelligente, si vous faites l'effort, je pense que vous pourrez percevoir cela. Peut-être, nous verrons. » L'apoderado semblait vouloir parler. J'en profitai. J'ai entendu parler d'une histoire de meurtre. C'est quoi cette histoire ? Il se referma un peu, mais me répondit néanmoins. C'est de la connerie, ça. Ortega adorait Victorino Vega. Il a toujours défendu cette ganaderia quand elle était au plus bas. Défendu ? Comment cela ? Vous ne savez pas comment ça marche ? Non, pas du tout. Les élevages sont très dépendants des matadors. Et les matadors ont leur préférence. Si une place taurine veut faire venir un grand matador pour sa temporada, elle doit prendre en compte les taureaux qu'elle va mettre en face. El Carillo, par exemple, refuse de taurer les Pedraza de Yeltes, mais il est fan des Quinta. Donc, si Nîmes veut faire venir El Carillo, par exemple, les organisateurs ont tout intérêt à choisir des taureaux de l'élevage Quinta, c'est bien cela. Parfaitement, vous avez tout compris. Eh bien, depuis quelques années, les Victorino Vega sont tombés en disgrâce. Pourtant, c'était une ganaderia de renom. Mais il suffit de pas grand-chose. Pendant 2 années consécutives, les taureaux sont mal sortis à Madrid, à Mexico. En France aussi, à Dax et Mont-de-Marsan. Les bêtes étaient un peu faibles, c'est vrai, mais sans plus. Seulement, la quasi-totalité des grands maestros ont tourné le dos à Vega. Ils ne voulaient plus torer si la ganaderie à Vega était présente. Eh bien, Ortega, lui, a maintenu sa confiance dans l'élevage. Pendant les années les plus noires, il a continué à accepter leurs taureaux dans des arènes majeures, à les réclamer même. Cela nous a coûté un beau paquet d'argent, croyez-moi, un très beau paquet. Mais il a sauvé l'élevage et l'a même ramené au plus haut niveau après la mort de Vega. Victorino Vega lui en était extrêmement reconnaissant. Une amitié profonde est née entre les deux hommes. Alors, si quelqu'un a tué Victorino, croyez-moi, cela ne peut pas être Manuel. Pourtant, Victorino a bien été assassiné. Vous savez pourquoi Ortega a été suspecté? Oui, on a retrouvé ses empreintes sur un verre de whisky sur les lieux du meurtre. Victorino a été tué d'une balle dans la tête et Manuel n'avait pas d'alibi. Dans ce cas, pourquoi n'a-t-il pas été inculpé? Parce que l'arme du crime n'a pas été retrouvée. Et à part l'empreinte sur le verre, il n'y avait rien qui puisse incriminer Ortega. Il a admis avoir bu un verre avec Victorino. Rien d'anormal, ils étaient amis. Et encore une fois, il aurait été incapable de faire ça. La police avait d'autres suspects? Je ne sais pas. Je crois que l'enquête est toujours en cours. Qui est chargé du dossier chez les flics? Le lieutenant-colonel Armando Calderón de la garde civile de Madrid. J'ai eu affaire à lui pendant l'enquête. Un vrai connard entre nous. Mais rassurez-moi, vous n'avez pas l'intention de parler de cette affaire dans votre reportage? Non, pas du tout. C'est par simple curiosité personnelle. Je suis passionnée par les affaires criminelles. Vous me rassurez. Vous pouvez me rappeler le programme des 2 jours à venir? Je n'ai pas bien compris. Cet après-midi, nous allons visiter le Campo Bravo de Domergue. C'est à côté de Séville. Après, on reprend le jet pour Madrid. Là-bas, on ira voir 2 ganaderias. Celle de Victorino Vega, justement, qui a été reprise par son fils. Puis, on ira voir les Torrenuevo. Vous pourrez aller prendre de belles images, je pense. À quoi servent ces visites? Ortega aime bien aller voir les éleveurs et les taureaux avant la temporada suivante. Ça lui permet d'orienter un peu les organisateurs qu'il connaît vers certains lots qui lui plaisent. En gros, il fait son marché. C'est à peu près ça. Il aime sentir les bêtes et discuter avec les éleveurs. Beaucoup de toreros font cela. Cela leur permet d'influencer un peu les cartels. Les cartels? Oui, ce sont les affiches, les plateaux des vedettes d'une course, hommes et taureaux si vous préférez. Ah, ok, excusez-moi, je ne suis vraiment pas une spécialiste. Ce n'est pas grave. Je vous prie de m'excuser, mais je vais quand même essayer d'aller dormir quelques heures. Nous prenons la route à 13h. La journée risque d'être fatigante. Dites à votre ami qu'on se retrouve à 12h45 dans le hall de l'hôtel. Très bien. José Ramón se leva et se dirigea lentement vers les ascenseurs. Sa démarche était lourde et mal assurée, témoignant de sa fatigue. Sorti du contexte de son job, il semblait être un brave type. Je restais seule sur la terrasse. Il était 8h25. Luane devait être réveillée. Je rallumai une vogue et composai le numéro de mon père. J'avais besoin de parler à ma fille. Ça m'aiderait peut-être à trouver le sommeil. Voilà, chers auditeurs. Je reprendrai la lecture de ce roman la semaine prochaine et je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes les émissions de la radio sur www.espritoccitanie.fr ou sur l'application mobile pour smartphone. À la semaine prochaine !